France Inter. Les admirations littéraires de
Ariel Dombal. Alors, les admirations littéraires, quel ravissant titre et quel programme. Je dirais que mon parcours a été jalonné de poésie, mais de poésie très diverse, car elle s'est faite, cette admiration littéraire, à cheval entre deux continents. Le continent américain où je suis née et élevée au Mexique, et puis mon arrivée en France, la France. Et entre deux, tout de même, issue de parents français, quand j'ai su lire en français, eh bien, voilà, mes admirations littéraires se sont incarnées dans d'autres auteurs. Mais je suis quand même dans ce bain latino-américain au cœur de mon enfance et c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversée. Et notamment le surréalisme proprement de qu'on pourrait qualifier la littérature latino-américaine. Alors, on commence peut-être par le fait que ma grand-mère, Managaro Dombal, fut une grande poétesse. Une poétesse et une épistolière. Et donc, mon goût de la lecture me vient de Abuelita, mi abuelita, Managaro Dombal. Alors, elle était femme de diplomate. Mon grand-père était consul aux Indes dans les années 20. Et elle, Mana, sa femme, tellement intelligemment, a appris d'abord la langue du pays. Et donc, elle a appris le bengali et elle a traduit Tagore. Ce qui était quelque chose de tellement étonnant pour une petite jeune fille de 20 ans. Mais elle avait commencé sa carrière de poète très jeune, dès l'âge de 15 ans. Et elle fonda un petit journal qui s'appelait Muse, salué par Paul Fort, notamment, et Jules Romain. Et puis, toute sa vie, elle a eu des amitiés étonnantes avec toutes sortes d'artistes, des poètes, des écrivains, des peintres, aussi bien Rufino Tamayo, qui était un petit indien qui descendait d'El Monte et qui est devenu le plus grand peintre mexicain. Mais elle a été amie et donc grande épistolière aussi bien de Benjamin Perret que d'André Breton, que de Jules Romain, que d'Octavio Paz, de Paul Claudel, de Mathilde Aguica, Pierre Mabille, Alexis Léger, Louise Weiss, Zhao Wuki, tous des êtres tout à fait étonnants. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, j'ai rencontré, moi, des peintres et des poètes tout à fait extraordinaires. Et ça, c'est un peu comme être élu des dieux que d'avoir eu accès très tôt à des personnages absolument fulgurants et merveilleux. Et elle, je la voyais toujours écrire des lettres toute la journée et des poèmes. Et j'aime ces poèmes. Alors ces poèmes, je vais vous en lire un qu'elle a écrit à l'âge de 15 ans. Et chaque fois que je regarde la lune, je pense à elle, car elle a écrit de nombreux poèmes sur les saisons, sur les forêts, sur le vent, sur les soleils et sur la lune. Alors celui-là, il s'appelle Lune. Grand lys abandonné du jardin de minuit, masque mystérieux du théâtre des nuits, ô conque voyageant sur l'océan des astres, Lune, ô bol des dieux et funèbre piastre, qu'au juge des enfers présente le jour mort. Lune, galère en deuil qui recherche le port, coquillage échoué sur les célestes grèves, Lune, porte d'argent de la maison du rêve, Lune, palais désert, blanche nécropolis, sarcophage portant la dépouille d'Isis, Lune, morte divine au beau front funéraire, monde pétrifié sans encensement. Labyrinthe où se perd l'âme en songe vêtue, œil ouvert de cyclope, orbite de statue, vestale qu'endeuilla le virginal serment, ô lune saint neigeux, émergeant de ses voiles, perle blanche fermant le collier des étoiles, cymbale suspendue et flamboyant sequin, lune, gâteau mortel d'un nocturne festin. Voici sous tes rayons faiblir les nerfs des roses, les ifs se figer en d'adoratrices poses, frissonner les cheveux riverains des roseaux. Et moi qui recueillis l'âme de Salomba, mon cœur, tel un serpent des nuits orientales qui fascine le chant du charmeur de Crotal, se dresse vers ton blanc regard magnétiseur. Tanit, ô mon amante, ô ma reine, ma sœur.
C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance au premier venu. Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu.
Les admirations littéraires de
Ariel Dombal
sur France Inter.
J'aime évoquer aussi mon grand-père, grand ambassadeur, grand diplomate, le premier à rejoindre le général de Gaulle en 40, et ensuite le général de Gaulle le nomma ambassadeur de France au Mexique. Et c'est pour ça que moi, je suis née aux États-Unis et j'ai vécu au Mexique. Et c'est pour moi cette immense chance de me retrouver finalement étrangère dans tous les pays. Les admirations littéraires. Oh, elles sont si multiples, si étendues, si intenses. Mais je dois dire que j'ai essayé de me concentrer vers des figures de femmes qui ont beaucoup compté dans ma trajectoire. Et notamment quelqu'un que j'ai lu assez tôt. Un voyage à Rome où je suis allée à la Villa Adriana avec ma grand-mère. Et j'ai été séduite et infusée de l'esprit des lieux. Et c'est cette extraordinaire figure d'Antinoüs qui a été le grand amour de l'empereur Adrien qui m'a menée vers Marguerite Yourcenar. Et c'est un livre qui m'a bouleversée, Les mémoires d'Adrien. Marguerite Yourcenar, j'ai probablement lu toute son œuvre et j'adorais la personne aussi, j'adorais la voix. Et c'est aussi, on peut dire, une héroïne car c'est la première femme qui entra à l'Académie française. Comme moi, elle a perdu sa mère très tôt. Ce que j'aime, c'est Marguerite Yourcenar, c'est toujours cette quête éternelle de définition de l'être. Et aussi bien le coup de grâce que les souvenirs pieux, que l'œuvre au noir, que les mémoires d'Adrien, sont des livres qui vous font voyager à distance dans le temps et dans les êtres. C'est extraordinaire. Elle n'écrivait pas de roman, elle n'aimait pas le mot roman. Et elle aimait l'idée que justement parler des amours de cet empereur pour le jeune Antinoüs est quelque chose qui nous touche tous profondément. Cet art d'aimer et ce désespoir d'aimer, des mémoires d'Adrien. Un jeune garçon placé à l'écart écoutait ces strophes difficiles avec une attention à la fois distraite et pensive. Je songeais immédiatement à un berger au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d'oiseau. Il n'avait apporté ni tablette, ni stylet. Assis sur le rebord de la vase, il touchait des doigts la belle surface lisse. J'appris que son père avait occupé une place modeste dans la gestion des grands domaines impériaux. Laissé tout jeune aux soins d'un aïeul, l'écolier avait été envoyé chez un hôte de ses parents, armateur de Nicomédie, qui semblait riche à cette famille pauvre. Cette voix, un peu voilée, prononçait le grec avec l'accent d'Asie. Soudain, se sentant écouté, ou regardé peut-être, il se troubla, rougit, retomba dans un de ces silences obstinés dont je pris bientôt l'habitude. Une intimité s'ébaucha. Il m'accompagna par la suite dans tous mes voyages et quelques années fabuleuses commencèrent. Alors là, évidemment, c'est un amour qui nous touche tellement parce que c'est un amour qui finira dans le désespoir. Et c'est tellement beau cette idée que dans l'amour, et on trouve ça évidemment chez toutes les grandes mystiques dont je parlais antérieurement, il y a toujours cet abandon de soi, ce sacrifice sur l'autel de son choix. Et finalement, aussi bien la poésie que mes texte favori en littérature tourne autour de l'énigme, de la grande aventure de la vie, qu'est l'amour. Marguerite Yourcenar, cette pionnière, cette merveilleuse écrivain qui eut aussi affaire à tous les préjugés sur les femmes écrivains, préjugés qui ont duré plus de 21 siècles et on n'en est pas encore sorti. Et qui sont un peu le sceau de toutes les femmes qui s'essayent à la littérature. Et toutes ces femmes dont les écrits ne virent jamais le jour. Parce que femmes, justement. Alors, quand j'avais 14-15 ans, je suis tombée sur ce livre de Simone de Beauvoir, qui a beaucoup compté pour moi, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Et je vais vous lire un petit texte qui est tellement édifiant. Demain, j'allais trahir ma classe et déjà, je reniais mon sexe. Cela non plus, mon père ne s'y résignait pas. Il avait le culte de la jeune fille, la vraie. Ma cousine Jeanne incarnait cet idéal. Elle croyait encore que les enfants naissent dans les choux. Mon père avait tenté de préserver mon ignorance. Il disait autrefois que lorsque j'aurais 18 ans, il m'interdirait encore les contes de François Coppée. Maintenant, il acceptait que je lise n'importe quoi. Mais il ne voyait pas beaucoup de distance entre une fille avertie et la garçonne dont un livre infâme, Victor Marguerite, venait de tracer le portrait. Si du moins j'avais sauvé les apparences, il aurait pu s'accommoder d'une fille exceptionnelle, à condition qu'elle évitât soigneusement d'être insolite. Je n'y réussis pas. J'étais sortie de l'âge ingrat. Je me regardais de nouveau dans les glaces avec faveur. Mais en société, je faisais piètre figure. Mes amis et Zaza elle-même jouaient avec aisance leur rôle mondain. Elles paraissaient au jour de leur mère, servaient le thé, souriaient, disaient aimablement des riens. Moi, je souriais mal. Je ne savais pas faire du charme, de l'esprit, ni même des concessions. Les choses dont on parlait autour de moi ne m'intéressaient pas. Je n'avais pas d'idées subversives. En fait, je n'avais guère d'idées sur rien. Mais toute la journée, je m'entraînais à réfléchir, à comprendre, à critiquer, je m'interrogeais, je cherchais avec précision la vérité. Et ce scrupule me rendait inapte aux conversations mondaines. C'est une langue tellement nouvelle, Simone de Beauvoir, et sa trajectoire est tellement admirable. Ses amours avec Jean-Paul Sartre aussi, mais ses amours plus secrètes, avec Nelson Algren, l'Américain. Et elle n'a pas mis une croix sur sa liberté ni sur sa sensualité. Et c'est ça qu'il y a de si grand chez Simone de Beauvoir. Des femmes comme ça, quelle femme souveraine. Et puis, avec ma grand-mère, j'ai connu la très vieille Louise Weiss, qui a été une des suffragettes et pour laquelle nous avons le droit de vote en France. Et donc, j'ai toujours admiré ces femmes « bigger than life », comme diraient les Américains. Et c'est vrai que la littérature et les héroïnes de romans qui m'ont fascinée étaient toujours les grandes amoureuses. Les sœurs Brontë, les grandes romantiques, Émilie Brontë. Il y a eu des héroïnes de Balzac qui étaient extraordinaires, Madame de Mortsauf dans le Lys de la Vallée, avec cette acuité balzacienne, ce sens de l'observation tellement fine. Et Balzac qui rend hommage aux femmes, car c'est grâce aux femmes qu'il put écrire. C'est grâce aux femmes, et notamment les femmes plus âgées, qu'il fut capable, lui, qui était couvert de dettes, de pouvoir faire une œuvre phénoménale qui nous explique vraiment tout le 19e siècle. C'est merveilleux. Alors, évidemment, des héroïnes de romans, dans mes admirations littéraires, il y en a beaucoup. Et plus tard, alors un auteur du XXe siècle qui a façonné une héroïne tout de même étonnante, c'est Albert Cohen et Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est vraiment les toboggans de la passion. Et c'est tellement beau le pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un et pourquoi est-ce qu'on aime quelquefois quelqu'un qui va vous mener dans des abîmes. Et pourquoi est-ce que l'attraction est irrésistible? Et pourquoi est-ce qu'on y succombe? Qu'est-ce qu'on aime chez l'autre? Alors ici, c'est donc Belle du Seigneur et Solal face à donc Ariane. Devant toi me voici, dit-il, me voici. Un vieillard, mais de toi attendant un miracle. Me voici faible et pauvre, blanc de barbe, et deux dents seulement. Mais nul ne t'aimera et ne te connaîtra comme je t'aime et te connais. Ne t'honorera d'un tel amour. Deux dents seulement, je te les offre avec mon amour. Veux-tu de cet amour? Oui, dit-elle, et elle humecta ses lèvres sèches, essaya un sourire. « Gloire à Dieu, dit-il, gloire en vérité, car voici celle qui rachète toutes les femmes, voici la première lumière. » Ridiculement, il plia le genou devant elle, puis il se leva et alla vers elle et leur premier baiser, alla avec son noir sourire de vieillesse, les mains tendues vers celle qui rachetait toutes les femmes. La première humaine qui soudain recula, recula avec un cri rauque, cri d'épouvante et de haine, heurta la table de chevet, saisit le verre vide, le lança contre la vieille face. Il porta la main à sa paupière, essuya le sang, considéra le sang sur sa main, et soudain, il eut un rire et il frappa du pied. « Tourne-toi, idiote !» dit-il. Elle obéit, se tourna, resta immobile, avec la peur de recevoir une balle dans la nuque. Cependant, qu'il ouvrait les rideaux, se penchait à la fenêtre, portait deux doigts à ses lèvres, sifflait. Puis, il se débarrassa du vieux manteau et de la toque de fourrure, ôta la fausse barbe, détacha le sparadrap noir qui recouvrait des dents, ramassa la cravache derrière les rideaux. « Retourne-toi !» ordonna-t-il. Dans le haut cavalier aux noirs cheveux désordonnés, au visage net et lisse, sombre diamant, elle reconnut celui que son mari lui avait en chuchotant montré du doigt à la réception brésilienne. Oui, Solal est du plus mauvais goût, sourit-il à belles dents. Botte, montra-t-il de joie. Il cravacha sa botte noire. Et il y a un cheval qui m'attend dehors. Il avait même deux chevaux. Le second était pour toi, idiote. Et nous aurions chevauché à jamais l'un près de l'autre, jeune et plein de dents. Ce qui est merveilleux avec Belle du Seigneur, c'est cette espèce de contrepoint ironique qui est pure intelligence de Solal sur sa proie. Sur sa proie qui est Ariane, qu'il va rendre folle d'amour. Belle du Seigneur, c'est un portrait de femme et un portrait de l'amour qui est très bouleversant.
I want to hear the truth.
Les admirations littéraires de
Ariel Dombasle
sur France Inter.
Dans les admirations littéraires, il faut que je retourne donc à mon adolescence mexicaine et à toutes ces figures étonnantes, notamment beaucoup de surréalistes. Et il y avait Max Ernst et son épouse, Leonora Carrington. Alors, Leonora Carrington, c'est vraiment la figure de femme surréaliste par excellence. Une poétesse, bien sûr, un écrivain, elle mourut folle. Mais ces tableaux, qui ont été extraordinairement minimisés du temps de son vivant, ont maintenant acquis toute une splendeur. Et c'est un peu comme Frida Kahlo. Frida Kahlo était mariée à Diego Rivera. Alors évidemment, Diego Rivera, qui était un des plus grands peintres mexicains, et surtout un immense muraliste, qui, dans un pays qui était très analphabète à l'époque, expliquait aux Mexicains ce qu'était l'histoire du pays. Diego Rivera était marié à Frida Kahlo. Et Frida Kahlo, c'est une œuvre très petite, mais très intense. Elle aussi fait partie de ces femmes surréalistes que j'affectionne, que j'adore. Sa première exposition, c'était Breton à Paris. Et maintenant, elle est devenue une idole absolue, presque à éclipser Diego Rivera. Eh bien, Leonora Carrington n'a jamais pu éclipser, il n'est pas question d'éclipser Max Ernst, mais elle était toujours la femme de Max Ernst. Et elle habita le Mexique aussi longtemps, avec une autre femme peintre, Remedios Varo, aussi, ces poétesses merveilleuses, surréalistes. Et elle écrivit des nouvelles, des contes, et notamment un conte, La débutante, qui est un texte qu'on peut qualifier de surréaliste, mais qui a quand même cette espèce de fougue, de verve, de féminisme au poste de commande. Alors, Leonora Carrington, la débutante. Quand j'étais débutante, j'allais souvent au jardin zoologique. J'y allais si souvent que je connaissais mieux les animaux que les jeunes filles de mon âge. C'était même pour échapper au monde que je me retrouvais chaque jour au zoo. La bête que je connaissais le mieux était une jeune hyène. Elle me connaissait aussi. Elle était très intelligente. Je lui avais appris le français et en retour, elle m'avait appris son langage. Nous passions ainsi de très agréables heures ensemble. Le premier jour de mai, ma mère organisait un bal en mon honneur. Pendant des nuits entières, j'en souffris. J'ai toujours détesté les bals, surtout ceux donnés pour moi. Le matin du 1er mai 1934, très tôt, je rendis visite à l'hyène. C'est embêtant, lui dis-je. Je dois aller à mon bal ce soir. Vous avez de la chance, répondit-elle. Moi, j'irai bien. Je ne sais pas danser, mais je peux faire la conversation. Il y aura beaucoup de choses à manger, dis-je. J'ai vu des camions pleins de nourriture arriver à la maison. Et vous vous plaignez, fit l'hyène, dégoûtée. Moi, je ne mange qu'une fois par jour, et encore, on me donne n'importe quelle cochonnerie. J'eus une idée audacieuse et je faillis rire. Vous n'avez qu'à y aller à ma place. On ne se ressemble pas assez. Autrement, j'irai volontiers, dit l'hyène un peu triste. Écoutez, dis-je, dans les lumières du soir, on ne voit pas très bien. Si vous êtes un peu déguisé, personne ne remarquera rien. D'ailleurs, nous avons à peu près la même taille. Vous êtes ma seule amie, je vous en supplie. Elle réfléchit un instant. Je voyais bien qu'elle avait envie d'accepter. « C'est entendu, » dit-elle brusquement. Il était encore très tôt, il n'y avait pas beaucoup de gardiens. J'ouvris la cage rapidement et en quelques instants, nous étions dans la rue. Je pris un taxi et à la maison, tout le monde dormait encore. Dans ma chambre, je sortis la robe que je devais porter le soir. Elle était un peu longue et l'hyène marchait mal avec les talons hauts. Je trouvai des gants pour dissimuler ses mains trop poilues pour ressembler aux miennes. Quand le soleil entra dans la chambre, elle fit plusieurs fois le tour de la pièce en marchant plus ou moins droit. Nous étions tellement absorbés que ma mère, venue me dire bonjour, faillit entrer avant que l'hyène ne soit cachée sous mon lit. Il y a une mauvaise odeur dans ta chambre, dit ma mère en ouvrant la fenêtre. Avant ce soir, tu prendras un bain parfumé avec mes nouveaux sels. C'est entendu, répondis-je. Elle ne resta pas longtemps. Je crois que l'odeur était trop forte pour elle. Ne sois pas en retard pour le petit déjeuner, dit-elle en quittant la pièce. La difficulté la plus grande était de trouver un déguisement pour son visage. Pendant des heures, nous cherchâmes. Elle rejeta toutes mes idées. Enfin, elle dit « Je crois avoir une solution. Vous avez une bonne ?»«
Oui, »
répondis-je perplexe. « Eh bien voilà, vous l'appelez et quand elle entre, on se jette sur elle pour lui arracher son visage. Je le porterai ce soir. » Bon, ce n'est pas pratique, dis-je. Elle sera probablement morte, son visage. Quelqu'un retrouvera le cadavre et nous irons en prison. J'ai assez faim pour la manger, répliqua Lien. Et les os? Bon, je les mangerai aussi, dit-elle. Alors c'est d'accord? Seulement si vous me promettez de la tuer avant de lui arracher le visage. Sinon, elle souffrira trop. Très bien, cela m'est égal. J'appelai Marie, la bonne, avec une certaine nervosité. Je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas détesté à ce point les balles. Quand Marie entra, je me tournai vers le mur pour ne pas la voir. Je dois avouer que ce fut très vite fait. Un cri bref et tout était fini. Pendant que Lien mangeait, je regardais par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, elle dit « Je ne peux plus manger. Il reste toujours les deux pieds. Mais si vous avez un petit sac, je les mangerai plus tard dans la journée. Vous en trouverez un brodé de fleurs de lys dans l'armoire. Videz les mouchoirs et prenez-le. » Elle fit comme je lui indiquais, puis elle ajouta « Retournez-vous maintenant et regardez comme je suis belle. » Devant la glace, Lien s'admirait dans le visage de Marie. Elle avait mangé très soigneusement tout autour pour qu'il reste ce qu'il fallait. « C'est proprement fait, » dis-je. Vers le soir, lorsqu'elle fut entièrement habillée, elle m'annonça. « Je me sens en très bon état. J'ai l'impression que j'aurai beaucoup de succès ce soir. » Comme on entendait déjà la musique en bas, je lui dis « Allez-y maintenant. Et surtout, ne vous mettez pas près de ma mère, elle saurait immédiatement que ce n'est pas moi. Pour le reste, je ne connais personne. Bonne chance. » Je l'embrassai avant qu'elle ne parte, mais elle sentait terriblement fort. La nuit était tombée. Fatiguée par les émotions de la journée, je m'assis près de la fenêtre ouverte avec un livre. Je lisais Gulliver Travelers de Jonathan Swift. C'est peut-être une heure plus tard que le premier signe de malheur apparut. Une chauve-souris entra par la fenêtre en poussant de petits cris. J'ai une peur terrible des chauves-souris. Je me cachai derrière une chaise, les dents claquantes. À peine étais-je à genoux que le bruit de ses ailes fut couvert par un grand fracas à ma porte. Ma mère entra, pâle de fureur. « Nous venions de nous mettre à table, » dit-elle, « quand la chose qui était à ta place s'est levée et a crié « Je sens un peu fort, hein ?»« Eh bien, moi, je ne mange pas les gâteaux. » Puis, elle a arraché son visage et l'a mangé. Ensuite, d'un bond, elle a sauté par la fenêtre. Leonora Carrington, la débutante. Dans les admirations littéraires, j'ai eu bien entendu une sorte de vertige, car je m'aperçois que j'ai des admirations fulgurantes, mais qui sont très nombreuses. Donc ce qui a été le plus difficile, c'est cette valse, cette hésitation entre tous les textes. Évidemment, le texte de Leonora Carrington, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, comme de nombreuses poétesses et femmes écrivains. Et c'est quelque chose d'extraordinairement mexicain aussi, parce que au Mexique, il y a toute une littérature de la cruauté. Et c'est intéressant pour ça, cette jeune Leonora, qui non seulement peignait des chimères et des animaux effrayants, mais dont la littérature était cruelle. il en faut aussi des cruels. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. La prise de son ainsi que le mixage ont été assurés par Corentin Rouchy. Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin. La semaine prochaine, nous parlerons encore et toujours poésie et je vous lirai du Charles Baudelaire.